Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. À la suite de ce journal, ce sera Sahel Plus, ce sera avec Claire Morin-Gibou, mais tout d'abord l'actualité. Direction la Côte d'Ivoire, aucune accalmie au sein du PDCI-RDA, le principal allié du RDA, le parti au pouvoir. Les tensions au sujet de la présidentielle d'octobre prochain s'aggravent de jour en jour, précisément autour de la candidature de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Quatre ténors du parti ont rejeté ce qui est désormais connu comme l'appel de Daoukro, du président du PDCI, Henri Konan-Bédier. Dans une interview exclusive à la VO Afrique, Kwadio Konan-Bertin, alias Kakabé, un des quatre frondeurs, affirme que le tsunami politique que connaît le PDCI conduit déjà le parti vers l'éclatement et d'indiquer que lui et les trois autres contestataires vont tout faire pour barrer la route à Alassane Ouattara. On écoute Kakabé.
L'union sacrée est là. L'union fait la force, dit-on. Et tous les quatre, nous sommes en pour parler, justement, pour dégager la stratégie la plus efficace possible pour battre M. Alassane Dramane Ouattara. Si nous estimons que la meilleure stratégie pour battre Ouattara, c'est de trouver un candidat des quatre, oui, pourquoi pas. Si nous estimons que en allant à deux, à trois ou à quatre, c'est plus efficace, bon, on appréciera. Mais toujours est-il que nous sommes conscients des enjeux et notre détermination à faire partir M. Ouattara par les urnes est sans équivoque. Et tous les quatre, nous sommes en pourparlers.
Éventuellement un candidat?
Naturellement, si ça passe par désigner un candidat, oui, pourquoi pas, nous le ferons dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire tout entière qui a besoin de réconciliation vraie, parce que croyez-moi, 5 années de vengeance, ça suffit. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver, les Ivoiriens ont besoin de se retrouver, et la portée de vengeance telle qu'appliquée par M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas celle qu'il nous faut pour réunifier notre pays, pour le remettre sur le rail du développement, parce qu'ils sont encore des milliers qui sont en prison, qui attendent un jugement, qui sont encore des milliers qui sont en exil. C'est pas comme ça que la Côte d'Ivoire va se bâtir.
Kwadio Konan-Bertin du PDCI-RDA, interrogé par Jacques Aristide dans les studios de la VOA à Washington. Vers un changement de constitution au Congo-Brazzaville, à l'approche des élections en 2016, le parti au pouvoir réitère la nécessité de changer le test. La constitution de 2002, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et l'âge limite des candidats à 70 ans, a fait son temps, estime Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, cité par l'AFP. L'opposition soupçonne le Parti Congolais du Travail de chercher ainsi à offrir au président Denis Sassou Nguesso la possibilité de se représenter. Au Nigeria, des membres de Boko Haram se rapprochent de Gourza, leur fief. C'est ce qu'a fait savoir une source du renseignement à la VOA. Déjà hier, on annonçait que les Nigériens s'étaient rassemblés dans cette ville. Des exactions y avaient été rapportées. Le Liberia marque une avancée majeure contre l'Ebola. C'est le pays qui déplore le plus grand nombre de décès causés par le virus à fièvre hémorragique, mais il est aussi le premier à ne compter aucun malade dans ses centres de traitement. Michel Joseph.
Béatrice Yordoldo, professeure d'anglais, mère de 3 enfants emportés par l'Ebola, a quitté le centre de traitement hier. C'était la dernière malade officielle. C'est le soulagement, bien évidemment, dans le pays, mais ça ne veut pas dire que le danger est complètement écarté. Au Liberia, le bilan a été de 4117 morts sur 9249 personnes contaminées. Au pic de l'épidémie, il y a 6 mois, environ 300 nouveaux cas étaient enregistrés par semaine. Autre pays touché par le virus, la Guinée et la Sierra Leone, les deux pays présentent une résistance de la maladie. La semaine dernière, 132 nouveaux cas y ont été confirmés, soit 34 de plus que la semaine précédente. Dans les labos de recherche, c'est toujours la course contre la montre. Les tests d'efficacité de certains traitements et vaccins ont été accélérés. Demain, le vaccin canadien, VSV et BOV, va entrer dans la dernière phase d'évaluation en Guinée. Rappelons que depuis le déclenchement de l'épidémie d'Ebola début 2014, il y a eu près de 24 000 cas enregistrés d'Ebola dans 9 pays et près de 10 000 décès selon le dernier bilan de l'ONU.
Il est 18h04.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et bien entendu, c'était l'heure à Monrovia. On part en Éthiopie. Les belligérants sud-soudanais n'ont une fois de plus pas réussi à régler leurs différends pour mettre un terme à la guerre civile qui ravage leur pays depuis près de 15 mois. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Tessaleng au nom de l'organisation gouvernementale est-africaine IGAD qui avait donné aux deux parties jusqu'au 5 mars pour s'entendre. Le point, Lionel Gaïma.
En fin de compte, malgré la menace de sanctions en cas d'échec de pourparlers, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar sont restés sourds aux appels de la communauté internationale. Les négociations devant mettre fin à 15 mois de conflit au Soudan du Sud ont été rompues ce vendredi. Le chef rebelle accuse le gouvernement. Nous avons fait de notre mieux pour arriver à un accord de paix, mais c'est devenu impossible en raison de positions adoptées par le gouvernement. Nous n'acceptons pas la défaite. Le premier ministre éthiopien a promis qu'il y aura un nouveau mécanisme pour le pourparler. Donc nous allons attendre afin de poursuivre les négociations de paix. Dans le camp du pouvoir, on souhaite avoir plus de temps pour parvenir à une entente sur la structure de gouvernement d'Union européenne et les réformes institutionnelles. Pour le ministre de l'Information, Michael Makuei, on ne peut pas parler d'échec. Des progrès ont été réalisés et le gouvernement est optimiste quant au retour de la paix au Soudan du Sud. Le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn était présent lors des entretiens de ce vendredi où Salva Kiir et Riek Machar étaient face à face. Il a dit aux deux dirigeants que la poursuite de la guerre est moralement et politiquement inacceptable et que l'organe régional de médiation, IGAD, s'attend à ce que les partis respectent leurs engagements quant à la formation d'un gouvernement de transition d'ici le mois de juillet.
En Égypte, au moins 7 personnes, dont des enfants, ont été tuées ce vendredi dans une collision entre un train et un bus collé à l'est du Caire. C'est ce qu'ont rapporté des responsables médicaux et de sécurité. 26 personnes ont également été blessées, dont 7 grièvement, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé. L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à une circulation anarchique, des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées. Le chaos en Libye continue de déstabiliser ses voisins. Le conflit favorise notamment la contrebande le long de la poreuse frontière avec la Tunisie et l'Algérie. Une importante cache d'armes a été découverte près de la frontière libyenne en Tunisie. Elle contenait des kalachnikovs, des roquettes, des grenades et des munitions.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et nous vous l'annoncions en début de semaine, l'armée irakienne a lancé une vaste offensive pour reprendre à l'organisation État islamique Tikrit, la ville natale de l'ancien dictateur Saddam Hussein, à l'heure où les combats s'intensifient. Près de 28 000 personnes ont dû fuir selon l'ONU. Les derniers développements avec Salwa Jafari.
Les militants de l'État islamique sont bien là, déterminés à garder Tikrit le plus longtemps possible. Sinon résolus à laisser leur marque au cas où ils devraient quitter les lieux. Hier, ils ont brûlé les puits de pétrole d'Agil dans la périphérie de la ville pour se protéger des frappes aériennes. Plus vicieux encore, ce crime de guerre, pour reprendre l'expression de l'agence culturelle de l'ONU, Daesh a rasé le célèbre site archéologique de Nimroud, 3000 ans d'histoire balayé d'un revers de la main. La bataille de Tikrit est un test majeur pour les forces irakiennes et les milices italiennes. Bagdad s'est dit confiante d'atteindre la ville ce soir. En attendant, près de 28 000 personnes ont dû fuir vers la ville de Samara. Elles viennent s'ajouter aux 2,5 millions de personnes déplacées dans le pays. L'ONU s'inquiète de leur sort. Plus inquiétant encore, selon l'organisation internationale, ce discours du premier ministre irakien Haider al-Abadi. Il a estimé que dans cette bataille, il n'y a pas de parti neutre. Toute personne choisissant la neutralité se ranger de facto du côté de l'État islamique.
La chef de l'UNESCO a condamné la destruction au bulldozer de l'ancienne villa syrienne de Nimroud, dans le nord de l'Irak, par des militants du groupe État islamique. Pour Irina Bokova, la destruction délibérée du patrimoine culturel de l'humanité constitue un crime de guerre. Et puis, ici aux États-Unis, la famille de Michael Brown, le jeune noir abattu par un policier à Ferguson dans l'État du Missouri, en août 2014, compte porter plainte au civil contre le policier et la ville de Ferguson. La mort de Michael Brown sous les balles de Darren Wilson avait donné lieu à des semaines d'émeutes violemment réprimées par la police. Merci de nous avoir suivis. Prochaine escale sur VO Afrique, ce sera à Sahel Plus avec Claire Morin-Gibou. Jean-Roger Billon à ce microphone. Je vous retrouve à 21h, temps universel. Et bien avant cela, à 19h, vous serez avec Jacques Aristide.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.